J'étais à la piscine de Montfleury mercredi, c'est la deuxième fois que j'y vais. Je vois des gens qui me disent bravo, il y a d'autres nageurs ici. Montfleury, là, en bas de la Californie, c'est quand même classe, quoi. Dans les cabines, là, j'entendais, je ne les voyais pas, mais une conversation entre une maman et une petite fille ou un petit garçon, je n'ai jamais su, je ne les voyais pas. Ils parlaient, puis la maman s'arrête et elle dit à son enfant, « Tu m'écoutes ?» Et c'était dit avec beaucoup de douceur, mais avec un petit peu de fermeté. J'ai cru comprendre que l'enfant lui avait répondu oui, je t'écoute maman. Et la maman a continué la conversation d'une voix encore plus douce peut-être que celle d'avant. Elle avait besoin d'attirer l'attention de son enfant. Tu m'écoutes ? Doucement, mais fermement. J'ai trouvé ça très beau. Ce petit « tu m'écoutes ». Je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Marc l'a déjà fait, nous poursuivons sur 6 semaines une campagne « Écoute, il reste quelques dossiers, 5-6 dossiers à la sortie, n'hésitez pas à en prendre un si vous n'en avez pas encore un ». Première semaine, Dieu parle, eh ben oui, s'il y a l'écoute, il faut qu'il y ait quelqu'un qui nous parle, et Dieu parle après avoir parlé de différentes manières, par les prophètes. Dieu nous a parlé par son Fils, Épître aux Hébreux. Christ, Jésus-Christ, concentre en lui, et on l'a lu tout à l'heure, Mona l'a lu tout à l'heure, la parole de Dieu, le Verbe de Dieu. Et puis, deuxième semaine, ton serviteur écoute, la personne de Samuel, hein, je vous avais montré cette photo bien connue hein, que Madame Langlade m'a donnée il y a 10 jours, avec le petit Samuel, ton serviteur écoute, le lien entre le service et l'écoute aussi. Samuel, pas simplement une posture, mais une attitude d'humilité et de disponibilité. Et puis, troisième semaine, écoutez et prendre position avec ce fameux texte de 2 Chroniques 20. Et contentez-vous de prendre position, d'être là, prendre position, et on en a parlé, en Christ. Et le texte proposé, donc, dans la campagne, on est en page, bon, je vous le dirai plus tard, la page, un peu plus loin dans le livre de Samuel. Samuel a grandi, il est devenu sacrificateur, prophète, il a un rôle important, et puis il y a un passage vers la royauté. Il n'y avait pas de roi en Israël, mais Samuel va oindre Saül. Puis après, il oindra David. Et puis, mais avant de oindre David et Goliath. Et on arrive, et la grande victoire de David avec sa fronde. Et on arrive au chapitre 18. Et là, lorsqu'ils étaient revenus de la guerre, après que David eut tué le Philistin, Goliath, les femmes étaient sorties de toutes les villes d'Israël à la rencontre du roi Saül en chantant, en dansant et en poussant des cris de joie au son de tambourins et de cymbales. Elles chantaient en chœur alterné tout en dansant. Saül a vaincu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Saül le prit très mal et se mit dans une grande colère. « Elles en attribuent 10 000 à David, dit-il, et à moi seulement 1 000. Il ne lui manque plus que la royauté à David. » À partir de ce moment-là, Saül regarda David d'un mauvais œil. Dès le lendemain, un mauvais esprit envoyé par Dieu s'empara de Saül, de sorte qu'il entra dans un état d'exaltation au milieu de sa maison. Extase, délire, c'est pas trop en fait. Comme les autres jours, David jouait de son instrument, Saül avait sa lance à la main. Soudain, il la lança en se disant « Je vais le clouer contre la paroi », en parlant de David. Mais par deux fois, David esquiva le coup. À partir de ce jour-là, Saül craignit David, car l'Éternel était avec David alors qu'il s'était retiré de lui. C'est pourquoi Saül l'écarta d'auprès de lui et le nomma commandant d'un millier d'hommes. Ainsi, David entreprenait des expéditions militaires à la tête de ses hommes. Il réussissait dans tout ce qu'il entreprenait, car l'Éternel était avec lui. Lorsque Saül constata ses grands succès, sa peur ne fit qu'augmenter. Quand Saül observa les grands succès de David, sa peur ne fit qu'augmenter. Par contre, tout Israël et tout Juda aimaient David, car il marchait à la tête de leurs soldats dans les expéditions militaires. David devient le gendre du roi. Un jour, Saül dit à David, « Je suis prêt à te donner ma fille aînée, Merab, en mariage, à condition que tu me serves vaillamment et que tu livres les combats de l'Éternel. » Il se disait, « Il vaut mieux que ce soit pas moi-même qui attente à sa vie, mais plutôt les Philistins. » David lui répondit, « Qui suis-je ? Et que vaut ma vie ? De quelle importance est la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi ?» Mais quand vint le moment où Merab, la fille de Saül, devait être donnée à David, Saül la donna à Adriel de Méola. Or, Michal, l'autre fille de Saül, aimait David. Alors, Saül, l'homme qui n'écoutait pas. 1 Samuel 18, avec une image de Gustave Doré, cet événement, enfin cet épisode de la vie de Saül et de David, a inspiré de nombreux peintres, avec la lance, la harpe. Et on aurait pu intituler cette prédication « Amour, peur et jalousie ». Un petit peu comme les séries TV « Orgueil et préjugés », raison et sentiment qui se passe à l'époque victorienne, je crois, à belle époque, que certaines personnes que je connais bien aiment beaucoup. Amour, jalousie et sentiment et émotion. Et puis on a deux personnages, David et Saül, bien différents. Et il est clair que le narrateur veut marquer la différence entre les deux hommes, et il y aurait beaucoup de choses à dire sur David, et il sera jamais loin, mais on va se concentrer sur Saül, cet homme qui n'écoutait pas, cet homme qui n'écoute pas. Et il serait intéressant de se poser la question de savoir comment il en est arrivé là. Parce que tout partait bien, tout commençait bien. Il a été oint par Samuel, Saül, et le texte de 1 Samuel 10 nous dit que l'esprit se tomba sur Saül. Et même, il y a un moment, vous pourrez le relire, qu'il est dit que Dieu opère une transformation en Saül. J'ai trouvé cette image, et je ne sais pas si vous voyez, en bas c'est 1 Samuel 9, 10, « God at work », Dieu il travaille Saül. Il part bien. Il a toutes ses chances. Dieu est à l'œuvre. Mais on connaît la suite. Et le narrateur, d'ailleurs, connaît également la suite. Et cela nous fait penser que les bons commencements ne sont pas la garantie d'une bonne suite. Il y a quelque chose à faire du côté de l'homme, qu'on pourrait appeler la persévérance, la résilience. La foi doit s'inscrire dans la continuité, dans la durée. Je vous ai parlé souvent, enfin peut-être pas si souvent que cela, mais des affiches en athlétisme. On en a parlé pendant les Jeux Olympiques, où il est marqué à la fin de la compétition, en regard du nom de l'athlète, DNF, did not finish. Il ne finit pas. Et le Nouveau Testament avertit à plusieurs endroits de l'importance de ne pas se fixer sur les bons commencements. mais de continuer. Regardez, et même, ils insistent, la Bible insiste sur la vigilance ou même la raison à avoir, Paul aux Galates. Insensé que vous êtes, Galates, vous avez commencé par l'esprit, vous allez continuer par la chair. Mais vous manquez de bon sens. Vous n'êtes pas saint d'esprit. Quand on a commencé, on continue. Et puis, 1 Corinthiens, je l'aime aussi, ce passage. Si quelqu'un se croit debout, qu'il prenne garde de tomber. La vigilance. Les bons commencements ne garantissent pas la suite de l'aventure. Vous êtes bien partis, les amis. Continuez. Et puis s'installe chez Paul une sorte de progression. chez Paul, j'ai dit Paul, hein. Saül, hein. Oh là là, ça va. Une sorte de progression, et une progression, hélas, dans la désobéissance. Avec des petites désobéissances. Enfin, des petites entre guillemets. Mais quand on les lit au chapitre 13, au chapitre 15, ça nous semble pas énorme. Mais ce sont quand même des désobéissances qui viennent s'accumuler dans la vie de Saül et qui sont peut-être pas si terribles que cela. Il y a un moment, il va faire des sacrifices parce qu'il est impatient et qu'il n'y a pas de sacrificateur sur place, donc il va faire lui-même ses sacrifices, mais qui révèle donc chez Saül un cœur vraiment partagé. Il est plus intéressé par son accomplissement personnel, c'est-à-dire d'avoir le pouvoir, d'être sur le trône, c'est la guerre des trônes là, le trône de fer, mais plus intéressé par sa propre personne que par le service de Dieu, que par l'amour de Dieu. C'est l'amour de lui qui le motive. L'amour du pouvoir. Et quand il, justement, s'impatiente par rapport au sacrifice, Samuel lui dit « Tu n'as pas obéi au commandement de Dieu. Tu n'as pas écouté, en quelque sorte, que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. » Et dans 1 Samuel 15, c'est un autre problème par rapport à une victoire. Et là aussi, Saül s'est détourné de moi, dit l'Éternel par la bouche de Samuel, et il n'a pas tenu compte de mes ordres, ou il s'est éloigné de moi, dit Dieu. Il n'a pas tenu compte de mes ordres, il s'en fiche de mes ordres. Il ne m'écoute pas, un petit peu comme les fils d'Élie, le sacrificateur, dans 1 Samuel 3, on l'a lu la semaine dernière, il s'en fiche. Il n'écoute pas. Et c'est intéressant, tu t'es détourné de moi ou tu t'es éloigné de moi, dit Dieu. Il y a une distance qui s'est mise dans l'écoute, dans l'obéissance. Et quand j'étais jeune, on avait ce dicton biblique, je pense, enfin pas biblique, mais théologiquement fort, mais qui me gardait bien, et qui disait « Le péché te gardera loin de la parole ». Loin de la Bible ou de la parole. Et la parole te gardera loin du péché. Toute une série de petites choses qui font que l'on n'écoute pas Dieu et qu'on s'éloigne de lui et que, je crois qu'on peut parler de l'endurcissement de Saül et de notre endurcissement parfois. Où l'on n'entend plus Dieu. Et cela me fait penser à cette phrase de Paul aux Éphésiens, « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Avec ce verbe très émotionnel, « attrister le Saint-Esprit », qui nous montre que dans la Trinité, le Saint-Esprit est bien une personne capable de sentiments comme la tristesse. Attrister le Saint-Esprit, et c'est intéressant de voir dans Éphésiens 4, c'est des petites choses de relation, l'animosité, la colère, l'orgueil, etc. Par toutes ces petites choses, on peut attrister le Saint-Esprit et se fermer à son action, Le Saint-Esprit continue à nous parler à travers peut-être notre conscience, d'autres personnes, mais on se ferme, on est dans un endurcissement, on attriste le Saint-Esprit. C'est ce qui arrive à Saül par de petites choses. Je reprends, on attriste le Saint-Esprit par des petites choses non révélées, non confessées, non pardonnées. Et puis, on arrive, après cette succession, cette accumulation, cette progression dans la désobéissance, on arrive au chapitre 18. Chapitre 10, tout partait bien. Chapitre 13, chapitre 15, des accumulations de désobéissance, de non-écoute, de mal entendu, de mal écouté. Et on arrive au chapitre 18 à une sorte d'enfermement de Saül, dans une spirale où tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait est mauvais, il faut le dire. On a là un cocktail explosif de tous les mauvais comportements imaginables. On a l'impression que Saül est complètement enfermé dans une spirale mortifère. Il tourne dans un cercle vicieux, c'est tout le contraire d'un cercle vertueux. Il s'y entraîne et on a l'impression même qu'il s'y enferme lui-même. Alors, il y a la jalousie. On l'a lu. Il ne lui manque que la royauté, dit-il au sujet de David, avec cet épisode de ces femmes qui accueillent les soldats et qui disent. Saül en a tué 1000, mais David 10 000. Et le texte parle de rire des femmes qui se répondent en riant. On parle de cœurs alternés. Il y en a une qui disent peut-être, il y en a qui disent David en a tué, Saül en a tué 1000 et David 10 000, en riant, sans se moquer. C'est le côté joie qui est souligné. Elles se répondent, les cœurs alternés. Et Saül le prend très mal. Il aurait dû se réjouir du succès de l'homme qu'il avait choisi, David, et qui s'est porté volontaire pour Goliath. Il aurait pu se réjouir du succès de l'autre, du succès des autres. Nous pourrions nous réjouir des succès des autres dans la vie professionnelle. C'est un défi, n'est-ce pas, hein, se réjouir du succès des autres. Au lieu de ça, on s'enferme, comme Saül, dans la jalousie. Il ne lui reste plus que la royauté. Et j'ai lu quelque part que c'était une sorte de surréaction. Il overreact. Il ne lui reste plus que la royauté. Mais il n'est pas question. David ne songe même pas à prendre la royauté de Saül. D'ailleurs, il prendra la royauté 20 ans plus tard, David. David a une vingtaine d'années, il n'y pense même pas, mais Saül, lui, est jaloux et il fait un procès d'intention à David, par jalousie. Une jalousie qui sépare, une jalousie qui détruit. Ça nous dit quelque chose, ça? Des jalousies qui détruisent la vie. Et puis, il y a cette... Alors, la malveillance, il regarda d'un mauvais œil. À partir de ce moment-là, il regarde David d'un mauvais œil. Et malveillance, c'est tout à fait ça, regarder quelqu'un d'un mauvais œil. Malveillance, mal veiller ou mal voir, on n'est pas loin. Et l'idée derrière cette malveillance, ce mauvais œil, c'est que Saül désormais observe David et ne voit que la confirmation dans ce que fait ou dit David de ses soupçons. C'est ça, la malveillance. David peut faire ce qu'il veut, Saül va l'interpréter négativement comme une menace pour lui. Mal voir, mal entendre. Et puis, colère. Il se mit, Saül, dans une grande colère. Alors, pour la colère, on pourrait dire beaucoup. Hein? On se souvient de ce texte d'Éphésiens qui nous demande que notre colère ne se couche pas avec le soleil. Il semble que Saül dort avec la colère et qu'il la renouvelle chaque matin. Fait penser à cette colère de Caïn quand il voit que c'est les sacrifices d'Abel ont été reçus avec plus de faveur que les siens. Ils se mettent dans une grande colère, dans le texte, Genèse 4. Et Dieu lui demande, « Fais-tu bien, Caïn, de t'irriter ? Fais-tu bien, Caïn, Saül, de te mettre en colère ?» Attention, le péché est tapi à ta porte. Mais toi, domine sur lui. Le péché est tapi à ta porte. Et Saül a une lance dans la main. Une lance était dans sa main. Alors que David lui joue de la harpe pour le calmer, il est là, et que c'est Saül qui a demandé à David de le faire, de jouer de sa harpe, il est là avec une lance à la main. Et quand on a une lance à la main, on va s'en servir. Quand on détient une arme, on va s'en servir. Fermez la parenthèse. Et il va s'en servir, il prend sa lance et il veut le clouer sur la porte. Et là, c'est Rembrandt là, qui montre la lance dans la main de Saül. Et ce qui est intéressant, c'est que cette musique qui calmait Saül, cette musique de David qui calmait Saül, maintenant va lui donner l'envie de tuer. La musique ne change pas, mais c'est Saül qui change et qui se laisse prendre par la violence. Et puis, il y a un autre dans ce cocktail explosif de celui qui n'écoute pas et qui s'enferme, celui de la manipulation. Ma fille aînée, elle est pour toi si tu vas te battre, si tu vas au premier rang. Parce que Saül se disait, il vaut mieux qu'il meure par la main de nos ennemis que par moi-même. Ce serait pas bon pour mon image quand même. Donc une manipulation, un stratagème. Et où on utilise les gens, où on objective les gens. Ils sont des objets que l'on place. Il place sa fille aînée dans son stratagème. Il s'en fiche bien. Et d'ailleurs, à la fin, David n'épouse pas cette fille aînée, Mirab, mais elle est donnée à un autre. Bon, il est manipulateur, pervers manipulateur. Et oui, il y en a dans la Bible. Il y en a dans nos vies. On l'est parfois. Et puis, je l'ai laissé pour la fin, mais je la mets au milieu. Regardez ce montage extraordinaire. La peur. La peur qui est centrale. Plusieurs fois, il est dit que Saül a peur. Et il semble, et c'est tellement tristement banal, que la peur soit le moteur de Saül. Ce sentiment d'insécurité, peur de perdre le contrôle, peur de perdre la main sur sa vie, la main sur son avenir de roi, peur de perdre le trône. Et quand on a peur, ceux qui sont autour de nous sont une menace, ne sont plus qu'une menace. David n'est plus un homme, n'est plus un être humain, n'est plus un frère, enfin, ou un serviteur. David est une menace et Saül est entouré de que des gens qui le menacent. Les femmes qui chantent, ses serviteurs même, Jonathan, son fils, et puis David, des gens menaçants et qui complotent. Et qui complotent. Il vit une sorte de paranoïa commune chez des personnes et surtout chez les grands de ce monde. Poutine est paranoïaque. Trump est paranoïaque. Je ne cite que ces deux-là, mais... Et on est parfois aussi un peu. Peur. Voilà le portrait, le pauvre Saül, il en prend. Mais il est question à un moment de ce mauvais esprit qui venait de l'Éternel et qui semble l'influencer. Alors, on aurait compris un mauvais esprit, mais venant de l'Éternel. Alors, certaines traductions mettent « permis par l'Éternel ». Alors pour faire court, hein, on va pas, il faudrait toute une prédication et encore ou une étude biblique, on va dire. Mais je dirais que venant de l'Éternel, c'est une expression utilisée par les auteurs du Premier Testament de la Bible, une expression qui met l'accent sur la souveraineté de Dieu. Tout vient de Dieu. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu amène toute chose à sa fin. Un raccourci pour dire que Dieu fait tout. En oubliant l'étape humaine ou la responsabilité humaine. Mais nous savons d'une part que rien de mauvais ne vient de Dieu qui est le souverain bien. Il n'y a pas une once de mal en Dieu. Il n'y a pas l'ombre de mal en Dieu, comme dit l'apôtre Jacques. Et le mauvais esprit qui nous est dit qu'il vient de Dieu, vient de Saül. Et que si Dieu est souverain, l'homme reste libre de ses choix et de son écoute, et de son obéissance, et de qui écoute. Et là, manifestement, Saül écoute ses vieux démons. Ça, c'est une expression peut-être plus moderne pour parler de ce mauvais esprit. Mes vieux démons. Bonne expression pour parler de ce souffle mauvais qui se saisit de Paul. Mais attention, pas contre la volonté de Saül. La volonté de Saül n'est pas inhibée ou annihilée. Et on le voit, il est enfermé dans ses vieux démons. Il écoute ses vieux démons. Il se laisse entraîner par ses vieux démons. Il reste responsable de ce qu'il fait, des choix de sa vie, parce que Saül avait le choix, comme nous tous. Et je crois que c'est important, quand on lit ce portrait défavorable de Saül, que Saül, qui avait bien commencé d'ailleurs, qui avait reçu l'Esprit, qui avait vécu une certaine transformation, avait le choix. Le bras de l'Éternel n'est jamais trop court pour sauver, et cela vaut pour toutes les figures négatives de la Bible, Caïn, pour Judas aussi. Judas aurait pu recevoir la grâce de Dieu. Avant, pendant, après même. Mais il n'a pas écouté. Mais il ne s'est pas ouvert à la grâce de Dieu. Il a eu certains remords. Saül a certains remords après ses deux péchés de 1 Samuel 13 et chapitre 15. Mais juste un remords. Pas une réelle repentance. Conversion. Transformation radicale. Judas, Saül ont gardé leur liberté de choix, mais ils ont choisi de ne pas écouter. Et ils sont tous les deux rentrés dans une spirale de violence et d'autodestruction. Si je n'écoute pas. À côté de cela, apparaît David. Alors, comme le héros de l'histoire, c'est plutôt Saül. Mais David, qui fait montre d'exemple, il est aimé de tous. Quand on lit le chapitre 18, le mot amour, je pense que c'est la recette de Dieu, l'amour pour les autres aussi. On voit que David est aimé de tous, quoi. Il est aimé du peuple. Il est aimé des serviteurs de Saül. C'est dit dans le texte. Il est aimé de Jonathan. Ça, c'est le début du chapitre 18. Le fils de Saül, le fils héritier de Saül. Il est aimé par Michal, la deuxième fille de Saül. Il est même aimé par Saül, dans, au chapitre 16, il y est bien dit, il est aimé de tous. Et un auteur écrivait très justement que David ne cherchait pas spécialement à être aimé ou à plaire. C'était pas, comme on dit en anglais, il n'y a pas de correspondant en français, enfin, vous pouvez peut-être me reprendre, un « people pleaser », quelqu'un qui veut plaire à tout le monde. Il ne semble pas que David ait cherché à plaire à tout le monde, mais que par sa foi, par sa fidélité à Dieu, par son intégrité, il attirait l'amitié, il attirait l'amour des personnes. Et un autre très marquant de David, c'est sa fidélité dans le service à Saül. Il reste loyal tout le temps. Jamais il ne cherche à saper ou à miner l'autorité de Saül. Il est fidèle dans sa loyauté et presque la naïveté. Il reçoit le commandement de l'armée, il devient général de l'armée avec joie et humilité, et il voit pas que Saül est en train de se débarrasser de lui. Il est prêt à prendre sa fille aînée pour femme, et il dit même qu'il n'est pas digne de devenir le gendre du roi. David est d'une humilité incroyable, d'une naïveté presque. Il ne voit pas le complot. David n'est pas complotiste. David est fidèle à Dieu et au roi qui est oint par Dieu, Saül en l'occurrence. Il ne pense jamais à le détrôner. C'est beau ça, de voir David presque naïf, mais innocent. En tout cas, de tout mauvaise pensée. Le récit nous dit que David esquive deux fois la lance. Alors j'imagine que Saül a lancé sa lance, et puis David l'a esquissé, Saül a été retiré la lance, et puis il a recommencé. Non, peut-être que ça s'est passé deux jours différents. En tout cas, ça montre que David persévère dans la grâce, persévère dans cette relation avec Saül. Et puis, autre aspect de David, là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il ne joue pas la victime, David. Jamais de victimisation. Vous voyez, les amis, comment je suis traité ? Pas de victimisation chez David. Waouh ! Il reste dans la grâce. Et David, c'est un modèle de grâce, un modèle de fidélité, un modèle de loyauté. Quel type, ce David ! Quel magnifique, ce David ! Enfin, pour un temps, on connaît l'histoire de David avec Bathsheba, où David chute lourdement. Et ce qui est intéressant, c'est que dans 2 Samuel, on voit qu'il y a un double péché, non seulement l'adultère avec Bathsheba, mais le meurtre contre Uri, le mari de Bathsheba. Et vous savez ce que fait David ? Il fait la même chose que Saül. Il envoie Uri en première ligne pour se faire tuer. Comme ça, pas de problème pour lui. C'est incroyable, hein ? David fait la même chose que Saül avait fait à son égard. On sait aussi que Michal qu'il aime tant, finira par mépriser David quand il chante et loue à moitié nu à côté du tabernacle. Les histoires d'amour finissent toujours mal, disait l'Erita Mitsuko. David reste, et beaucoup de personnages de la Bible, même Abraham, même les grands, un personnage décevant. Le David flamboyant et décevant, en même temps, va avoir un descendant. Quelqu'un que 2 aveugles interpellent, que la foule à Jérusalem interpelle, que la femme cananéenne interpelle, Jésus, fils de David, prends pitié de nous, viens vers nous. Ce descendant, ce fils de David, c'est Jésus-Christ qui va être pleinement complètement, éternellement, à l'écoute de Dieu et dans l'obéissance à Dieu. Il y a l'Épître aux Hébreux et qui nous dit que qu'il a appris, que Jésus a appris l'obéissance par les souffrances qu'il a endurées, par tout ce qu'il a souffert. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux ajoute, bien qu'étant fils, mais oui, il est fils de Dieu, Dieu lui-même, il apprend pourtant l'écoute, il apprend pourtant l'obéissance. Et pour l'auteur de l'Épître aux Hébreux, puisqu'il ajoute, bien qu'étant fils, c'est un mystère, mais c'est un mystère lumineux. Ce fils de David, ce fils de l'homme, apprend l'obéissance. Alors il y a bien eu des hésitations dans le jardin de Gethsémané. J'aime beaucoup cette peinture de Gauguin. Jésus à Gethsémané où il dit par trois fois, et c'est une prière, hein, c'est bien dans les évangiles, c'est bien dit que Jésus se met à prier, Seigneur, Dieu, si c'était possible que cette coupe, la coupe du jugement qu'il va boire à la croix, si ça pouvait s'éloigner de moi, ce serait bien. On parle d'angoisse, de peur et de tristesse pour Jésus à ce moment-là, de sentiments, d'émotions. Mais par trois fois, il va prier cette prière et il va être à l'écoute et il va recevoir cette parole. Non pas ma volonté, dit Jésus, mais la tienne. Je veux t'obéir. Je veux te suivre. Je veux aller jusqu'au bout de ma mission. Et l'obéissance de Jésus nous sauve et nous libère. Et à notre tour, nous ne voulons pas écouter nos vieux démons de peur, de jalousie, de colère, de manipulation. Nous ne voulons pas écouter la voix des sirènes. Vous savez, Ulysse qui revient de voyage, qui va se retrouver, c'est Pénélope, hein ? Bon, bref, et qu'il passe dans un défilé, et il y a des sirènes qui chantent et qui semblent attirées par ces vieux démons, et ils s'attachent au mât pour ne pas entendre ou ne pas succomber au chant des sirènes, les sirènes de la facilité, les sirènes de l'égoïsme, les sirènes du chacun pour soi et du bon, de mon plaisir d'abord. Ce sont des sirènes puissantes, hein. Moi, j'ai pas éliminé les sirènes. Non, on veut pas écouter ni nos vieux démons, ni les sirènes, mais écouter de la voix de celui duquel sa volonté est parfaite, bonne, agréable même. C'est une bonne campagne que cette campagne écoute, qui nous rappelle non seulement que nous devons nous mettre à l'écoute, mais aussi que nous avons à nous mettre en marche dans l'obéissance. Amen. Et je vous invite à prier. Seigneur, tu connais les vieux démons de chacun. Et on n'a pas tous les mêmes. Tu connais nos zones de faiblesse. Tu connais nos petites choses, entre guillemets, non confessées, non révélées, qui nous bloquent et qui nous enferment. Seigneur, ne permets pas que nous soyons complètement enfermés comme Saül l'était. Délivre-nous du mal, Seigneur. Donne-nous d'être à ton écoute, toi qui par ton esprit nous révèles des choses que nous avons à régler. Mais Seigneur, ton esprit n'est pas un esprit de jugement, ni de condamnation. C'est ta grâce en Jésus-Christ, la lumière de ta grâce, qui met en lumière nos zones d'ombre. Et Seigneur, tu nous demandes simplement de nous ouvrir à ta lumière et d'éclairer nos obscurités. Seigneur, donne-nous d'écouter ta voix et de marcher dans la lumière, marcher dans l'obéissance. Seigneur, tu as commencé quelque chose avec nous et tu vas poursuivre ton œuvre, ton travail en nous, jusqu'à son accomplissement, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Seigneur, œuvre en nous, travaille en nous, mets-nous à ton écoute et dans l'obéissance. Amen.